Vous faites du déjà vu, Madame Lancaster.
Have we met?
Yeah. On se connaît?
Ouais. On se connaît.
Mais c'est de la merde!
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Déjà Vu, l'émission cinéma qui parle des films et de leurs remakes, mieux connus, meilleurs que l'original ou tout simplement inutiles. On est là pour comparer et pour trancher lequel est le meilleur. Avec nous autour de la table aujourd'hui, nous avons Mélissa. Bonjour. Nous avons Géraldine.
Bonjour.
Et nous avons un invité spécial aujourd'hui, Sébastien.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler de deux films, comme d'habitude, hein, de deux films. Le premier film original qui s'appelle en français Ne coupez pas, qui s'appelle en anglais One Cut of the Dead et qui s'appelle en japonais, parce que c'est un film japonais, Kamera Otomeruna.
Wow.
Je pense que je suis meilleur en japonais qu'en chinois ou en mandarin.
T'as un bel accent.
C'est un film qui est sorti en 2017, réalisé et scénarisé par Shinichiro Ueda, avec notamment dans le casting Takayuki Amatsu, Yuzuki Akiyama et Harumi Shuhama. Nous allons également parler de son remake, hein, parce qu'on essaie de faire des émissions qui sont d'actualité. Alors on a une actualité avec à peu près un mois de retard, mais c'est parce qu'on a du mal à se retrouver, car vous n'êtes pas sans savoir que ce joli film japonais a eu le droit à un remake français qui s'appelle donc Coupé et non Z comme on peut le voir sur l'affiche qui est encore sur IMDB. Je ne sais pas si vous avez l'anecdote, on en parlera peut-être tout à l'heure du titre de travail. Donc Coupé, réalisé par Michel Hazanavicius, avec au casting notamment Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, il y a aussi Finnegan Oldfield, enfin il y a plein, c'est un petit peu dur d'être exhaustif pour ce film.
C'est dommage, c'est plus facile à prononcer.
C'est plus facile, ouais. Ouais. Après il y a des actrices, ouais, mais par exemple il y a Mathilda Anna Ingrid Lutz, qui est l'actrice italienne. Donc c'est un film qui est sorti en 2022, qui a été projeté pour la première fois au Festival de
Cannes. Avez-vous déjà vu?
Est-ce que vous connaissiez les films? Est-ce que vous les aviez vus? Est-ce que vous aviez des a priori? On va peut-être commencer par notre invité, okay. Sébastien.
Alors, moi déjà, je commence par préciser que j'apprécie qu'on ne soit pas esclave complètement de l'actualité. Moi, je trouve ça sympa d'entendre parler de films avec un peu de décalage. Quand on les a vus, en plus, ça permet d'avoir un peu de recul dessus. J'avais entendu parler de l'original il y a quelques années déjà. Je connaissais l'histoire, que c'est un film d'école, d'étudiant, qui a un parcours un peu incroyable du coup, parce que c'est l'école qui a voulu juste la distribuer au début, puis ça a intéressé des distributeurs japonais, donc c'est sorti au cinéma au Japon, ça finit par s'exporter en France, d'abord par des festivals, je pense. C'est un film qui va beaucoup être vu, qui a beaucoup été vu en vidéo ou en visionnage domestique divers.
Est-ce qu'on peut préciser ta profession? Parce que ça a un intérêt quand même.
Alors non, il n'en est pas question. Moi, je suis projectionniste de cinéma.
Voilà, c'est pour ça aussi que tu as des connaissances sur la distribution, plus que nous en tout cas.
Oui, ça je sais pas. Je connais plein de gens qui en savent encore plus que moi. Mais oui, c'est le milieu dans lequel je travaille, donc oui, je m'y intéresse un petit peu.
En plus d'être cinéphile, du coup, tu as ces connaissances-là. Géraldine, est-ce que tu connaissais? Tu avais vu l'un des deux?
Non, moi je connaissais pas du tout. Quand tu lis le synopsis, ça paraît un petit peu basique comme film de zombies. Bon, moi j'aime bien les films un peu chelous et même parfois un peu nuls de temps en temps. J'ai fait confiance à Michel.
Mélissa?
Non, moi je ne connaissais pas jusqu'au jour où j'ai reçu ce texto sur WhatsApp d'un membre du podcast.
On ne citera personne,
mais qui nous proposait de regarder ce film-là. Moi j'aime bien les films de zombies, j'aime bien le côté un peu improbable aussi. Réflexion sur le cinéma de manière légère, mais donc j'étais contente du choix.
Oui, Vincent n'est pas là parce qu'il est en train justement de tourner un film de zombies. Non, pas du tout, on va lancer des rues. Il s'est lui-même, on l'a enfermé.
J'espère qu'il a vu les films quand même.
Je sais même pas.
Il a vu l'original, mais est-ce qu'il a...
Très bien. Moi, pour ma part, c'est un petit peu comme toi, Sébastien. J'avais entendu parler de l'original par son parcours un peu spécial. Plus j'étais tombé dessus sur un classement sur Internet qui parlait des films, qui parlait de films. Je ne l'avais pas vu à l'époque. Donc, je suis content de l'avoir découvert pour cette émission aujourd'hui. Et puis, le remake, je crois que je n'en avais pas entendu parler avant de voir les annonces à Cannes. Quoi.
Moi, j'en avais entendu parler parce qu'il aurait dû être projeté à Sundance tout début D'accord. janvier 2022. C'est les pandémies qui ont annulé certains festivals qui ont annulé ça. Et du coup, c'est devenu le film d'ouverture du festival de Cannes.
It's a phenomenon. Known as déjà vu.
Zombie mono de, namachuke de,
ワンカット。顔顔。なんでそんなのか教えてやろうか。
浅めだ。
俺は俺の作品だ。俺の作品だよ。
ここね。表向きは浄水場として作られたんだけど、裏ではある実験に使ってたんだって。
ある実験？
人体実験。
撮影は続ける。カメラは止めない。
この噂が本当だったなんて。
最高かよ。おい、
血はもう巻き終わった。
血の呪文を唱えるとそれは蘇る。
それ
s'ouvre sur une femme qui se fait attaquer par un zombie, et là, coupé, le réalisateur débarque pour donner des indications sur la façon dont il faut jouer la scène, et accessoirement pour insulter l'actrice sur son jeu, somme toute tout pourri. On comprend qu'on est plongé dans le tournage d'un film de série Z. Les acteurs prennent une pause, rencontrent la maquilleuse assistante qui explique que l'entrepôt dans lequel ils sont en train de tourner est hanté, et peu de temps après, ils se font attaquer par des zombies. Mieux que ça encore, ils comprennent que le réalisateur a réveillé une ancienne malédiction pour réveiller des zombies afin d'obtenir de vraies émotions chez les acteurs, puisqu'ils sont vraiment trop nuls. Donc l'équipe de tournage se retrouve dans un sacré pétrin, et on voit passer au fur et à mesure des techniciens qui sont clairement passés du côté obscur des zombies. À l'issue donc d'une série de massacres et de transformations, l'actrice principale en est la seule survivante. Puis, au bout de 30 minutes, on est propulsé un mois auparavant, dans les conditions de production de ce court-métrage qui est en plan séquence. On voit la productrice qui a proposé à un réalisateur assez modeste et assez timoré, donc il s'appelle Takayuki Igarashi.
Tout le monde a bossé, quoi.
Donc, elle propose à ce réalisateur de réaliser un film de zombies intitulé One Cut of the Dead. Donc c'est le titre en anglais. Voilà, l'idée du film, c'est que c'est un plan séquence qui devra durer une demi-heure et être diffusé en direct à la télévision. Donc Takayuki, il se sent pas trop à la hauteur, mais il accepte finalement un peu aussi parce que sa fille, qui rêve d'être réalisatrice, est très fan de l'acteur principal recruté pour le projet. Donc la préparation est assez difficile, avec les difficultés techniques du tournage, mais aussi avec les demandes de certains acteurs et les problèmes d'alcoolisme d'autres acteurs.
Les problèmes d'eau aussi.
Oui, il y a beaucoup de problèmes, on le verra. Et donc on a une troisième partie après le film, donc c'est le fameux tournage. Les acteurs qui devaient incarner le réalisateur et son assistante ont un accident. Et Takayuki lui-même va se retrouver à jouer le rôle du réalisateur et assume une personnalité assez exubérante à l'écran. Il se lâche beaucoup, alors que d'habitude il est plutôt réservé. Sa femme, Harumi, prend le rôle de l'assistante, malgré son expérience d'actrice plutôt catastrophique et son caractère un petit peu extrême. Et donc voilà, la demi-heure du tournage est chaotique. De nombreux incidents obligent l'équipe à improviser en permanence, ce qui explique certaines étrangetés qu'on a vues dans la première demi-heure. Tout se termine assez bien, grâce à l'intervention de sa fille, Mao, qui a une réactivité face aux imprévus qui est assez admirable. La productrice est très contente, et c'est une vraie réussite pour ce film de série Z.
Oh, et j'avoue.
Vraiment un film découpé en trois. Hein. On a la première partie où on assiste, on subit un peu même. On se demande, il y a plein de moments où on dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce qui se passe là?
On se demande si c'est vraiment un truc vraiment tout pourri ou s'il va se passer. Hein. Enfin, comment ça. Prendre le film, quoi? Est-ce que c'est parodique ou alors vraiment c'est les conditions
Même si c'est parodique, on se dit, ça va être long. Oui. 1h50 que de parodie, quoi.
Au début, je me suis dit que ça va être un film entier en plan séquence, puis après, non, et puis il y a la fin. Mais c'est. Nous, en fait, on découvre le film de façon non chronologique, finalement. La deuxième tiers du film, c'est surtout la production, et le troisième tiers, on voit quasiment en direct le tournage de la première moitié qu'on a fait, du premier tiers qu'on a vu. Et là, on découvre pourquoi il y avait des soucis dans le
film. C'est les coulisses, les backstage un peu de la partie qu'on a vue en premier.
Et puis la grande réussite, oui, c'est que tout ce qui est un peu pas drôle, un peu trop lourd, un peu trop long dans ce premier tiers, c'est, les mêmes choses deviennent hilarantes en fait.
Exactement,
dans le dernier tiers,
ouais.
Parce que d'un coup, on a les à côté. On sait pourquoi tel acteur s'est figé pendant 10 secondes parce qu'il regardait quelque chose. On voit enfin quoi.
Pourquoi donc elle essaye de gagner du temps aussi en répétant tout le temps la même phrase.
Ouais, exactement. Oui, c'est très marrant ce montage parallèle. Si vous avez eu la chance ou l'envie de revoir du coup la première demi-heure, tout ce qui n'était pas drôle redevient drôle parce qu'on imagine tous les à côté maintenant qu'on connaît quoi.
C'est assez osé en fait de faire un plan séquence de 30 minutes d'une qualité médiocre sans avoir peur de perdre ses spectateurs en fait. Justement, le fait qu'on sache pas trop si c'est du lard ou du cochon, on a envie de savoir en fait. Moi c'est ça aussi qui m'a... on avait aussi une émission à faire, mais c'est ça aussi qui m'a tenu un petit peu dans l'attente de voir ce qui se passe ensuite quoi.
D'autant que quand on lit le synopsis, officiellement, le synopsis, là, nous, on vous raconte un peu tout, mais officiellement, le synopsis, c'est pendant un tournage, les acteurs sont attaqués par des vrais zombies, et nous, on vient pour voir ça, quoi.
Mon Dieu. J'ai déjà vu ça.
À un moment, en fait, la caméra tombe. Il y a une scène qu'on ne voit pas, qui est complètement hors champ et on entend. Puis après, on rattrape l'action. En fait, on comprend dans la deuxième partie du film qu'il y a eu un problème avec le cadreur.
Et qu'en fait,
il a un lumbago ou un problème de dos, en tout cas. Et en fait, c'est son assistante qui reprend le contrôle de la caméra et puis elle suit de nouveau l'action. Et moi, j'ai bien aimé voir ce moment-là. D'autant plus que depuis le début du film, on voit bien qu'elle essaie de se faire une place et qu'elle n'y arrive pas parce que du coup, il lui laisse pas la place. Il veut absolument cadrer, mais il est complètement pas apte physiquement.
C'est ça.
La partie production, enfin tout le milieu du film, ça nous permet de poser les graines un peu de chaque problématique de chaque personnage qui va s'expliquer après. Donc celui qui a des problèmes gastriques, celui qui a un problème d'alcoolisme, l'actrice, la mère qui est complètement hystérique quand elle joue un rôle. Enfin voilà, chaque personnage est un peu grossi et ça rend la chose beaucoup plus drôle après quand on voit l'autre qui est malade, l'autre qui ne sait pas pourquoi il s'en va, en fait il a un problème de digestion.
Ça répond à plein de questions qu'on se pose en voyant la série Z ratée au début. C'est vrai que cette caméra qui tombe, on se dit mais est-ce qu'il n'est pas censé se passer quelque chose, un effet spécial, une explosion qui ne démarre pas, puis du coup ils reprennent. Si c'est que ça, c'est pas très marrant finalement, et puis quand on comprend tout ce qui se passe, et puis c'est aussi très humain en fait aussi, c'est ça qui est chouette.
Et comme tu disais, l'assistante caméra qui veut absolument faire des effets zoom, qui insiste dessus, et qui comprend pourquoi d'un coup c'est absolument invivable ces caméras embarquées, et qui fait des zooms pour créer un peu de tension, et là c'est d'autant plus drôle après qu'on comprend qu'elle avait cette obsession dès le départ de faire cet effet.
Oui, et la production du coup qui réagit comme si... Enfin, qui voit que ça a changé de cadreur en fait. C'est un peu kitsch, mais j'adore.
Moi, je trouve que la beauté du film, c'est que on voit, comme tu disais Sébastien, des erreurs humaines, entre guillemets, enfin je dis erreur, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur un tournage. Et quand on est spectateur, on ne se rend pas forcément compte de la difficulté que c'est de faire, alors que ce soit un court-métrage, un long-métrage ou plein de choses. Et là, ça les surligne bien en gras, mais l'avantage, c'est qu'on voit ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est souvent facile quand on est spectateur de dire oh, bah, le film, il est nul ou c'est bizarre. Mais en fait, on ne sait pas tout le temps ce qui se passe. Des fois, on a la chance d'apprendre les coulisses de film, mais on ne sait pas toujours ce qui se passe. Et là, on voit vraiment toute une équipe qui est passionnée et qui met beaucoup d'énergie pour essayer le mieux possible de faire quelque chose de bien, alors qu'ils sont tous convaincus que c'est quand même pas un projet voilà, génial.
En plus,
quoi.
Ils savent bien que c'est, pour beaucoup, c'est alimentaire, ou alors c'est pour un souci de popularité. J'aimerais bien que ça rende aussi tout spectateur un peu modeste, c'est-à-dire que derrière chaque film raté, il y a beaucoup de travail en fait.
Ça montre toutes les contraintes en fait, les contraintes humaines, contraintes matérielles, contraintes de pression, production avec les contraintes. Bah, on veut un plan séquence, ok, bon, je vais faire ça, mais le matériel se casse et puis il y a les égos des acteurs. Voilà, on le voit peut-être un peu moins dans le premier, mais en tout cas leurs problématiques personnelles, alcoolisme ou autre, qui font que le réalisateur doit un peu jongler. Et trouver des solutions comme ça, au tac au tac. Quoi.
Et ouais, surtout sur le côté contrainte de production, en fait, le plan séquence, on le voit toujours aussi comme une performance et c'en est réellement une. Et je pense qu'en tant que spectateur, on est facilement en train de dire « Ouais, mais ça, c'est pas un vrai plan séquence, regarde, là, ils ont coupé et tout. » Enfin, je me souviens des réactions pour Birdman, par exemple, où c'est des films entiers, du coup, qui sont en plan séquence. D'ailleurs, parenthèse, je sais pas si vous avez vu le film Victoria, Mais c'est un film entièrement en plan séquence, c'est génial. Et là, c'est un vrai plan séquence, me semble-t-il.
On a le droit de faire ça, de faire des recommandations au milieu du podcast comme
bah,
ça.
Bien sûr.
Bah, je le regarderai s'il y a un remake, en fait. Non seulement il y a une vraie performance derrière tout plan séquence, mais en plus, là, faut imaginer l'écriture et le minutage qu'ils ont fait pour eux faire leur faux court-métrage d'une demi-heure, inventer toutes les péripéties qu'il y a autour et retourner avec, pour nous les rendre visibles. Donc là, il y a un travail qui est énorme. Je peux pas oublier la sensation que j'ai de me dire, je m'assois devant un film qui vient d'une école, qui est un peu parodique, et finalement voir un hommage au cinéma et deux, une performance monumentale, au moins sur le plan du technique. Quoi,
la technique, là, ils l'ont poussé ouais. Jusqu'au bout.
Alors, c'est un petit peu, entre guillemets, à la mode en ce moment d'être très méta, c'est-à-dire d'avoir un regard sur son propre fonctionnement. C'est-à-dire que c'est un film, parle d'un film, parce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux, parce qu'au tout début, la toute première scène qui dure même pas 10 secondes, hein, la fille qui se fait attaquer, en fait, c'est un film dans un film. Donc, il y a vraiment plein de tiroirs dans cette histoire.
Alors, n'oublie pas qu'il y a certainement un making-of en plus de ce film.
J'ai vu un documentaire sur YouTube sur les élèves, justement, qui font le stage juste avant la création du film, parce que comme tu disais, Sébastien, c'était une sorte de workshop d'école. Ils ont écrit le film tout en faisant des workshops d'acteurs. Et en fait, on voit qu'au début, les acteurs n'étaient pas forcément sûrs de qui allait jouer qui. Donc on voit plusieurs minutes où tu as le réalisateur qui est joué par le mannequin, tout ça.
Les acteurs sont les élèves.
Oui, alors...
Des gens qui ont payé un workshop, en fait, c'est pas des étudiants de fac.
Ce que j'ai compris, c'est pas vraiment un film d'école, c'est plutôt un peu un film de stage d'été, quoi. Donc ouais, c'est encore plus méta quand on voit ça, parce qu'on regarde des gens qui s'entraînent à faire un film, qui va faire un film. À la fin, dans le cerveau, et en plus, après, quand on voit le remake, on va en reparler.
Dans Making Of, on voit les schémas sur les tableaux.
Ouais.
Dans le générique, on voit quelques images du tournage.
Et pareil, on sait pas trop si c'est des vraies images du tournage ou si c'est des fausses images qui sont censées, et on se mélange un peu dans tout ce truc là, mais je trouve que c'est assez intéressant, justement, on oublie un peu quel est le vrai du faux, quoi.
Mais même dans le plan séquence, le tout premier, où on sait pas encore les tenants et les aboutissants du film, je trouve que même quand on regarde cette première demi-heure, on se demande, est-ce qu'il y a vraiment des zombies, est-ce que c'est déjà une parodie d'en fait c'est pas des zombies, ils sont juste en train de péter un câble, enfin c'est même pas clair dès le départ, donc c'est encore plus drôle, je trouve.
Puisqu'on a le droit de faire des recommandations, dans le genre cinéma en train de se faire, moi je suis très fan d'un film qui s'appelle Tournage dans un jardin anglais, que je recommande à tous, ne me demandez pas le nom du réalisateur, j'ai oublié. Vraiment, les acteurs brisent le quatrième mur en permanence, et les relations en fait, entre les comédiens se voient dans ce qu'ils sont en train de tourner, donc c'est assez chouette.
J'ai beaucoup aimé ce genre de film parce que dans ma jeunesse, même il y a encore quelques années, j'ai participé justement à des tournages de courts-métrages entre copains, et forcément, en fait, on reconnaît plein de choses. Alors, c'était pas forcément des films de zombies, c'était soit d'autres remakes, soit même des tournages de clips, tout ça, enfin plein de choses. Et c'est d'autant plus touchant, on comprend ces histoires de soucis, que ça soit humain, quelqu'un qui est en retard, il a raté son train, en fait ça décale tout, les trucs de dernière minute avec du scotch ou d'improviser parce que finalement une scène qu'on pensait qu'elle allait être cool, ça rend pas bien, enfin voilà, ça résonne assez, c'est assez sincère en fait. Je trouve que ça se prend pas trop au sérieux aussi. En fait, ça a beau être très ambitieux, c'est pas des gens qui se regardent faire quoi. C'est
sur les c'est, faiblesses aussi.
Et par ailleurs, c'est hyper accessible, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime les films de cinéma en train de se faire, comme je le disais. J'aime aussi beaucoup les films de genre, les films de zombies. Et c'est un film qu'on peut aimer parce qu'on aime les films de zombies. C'est aussi un film qu'on peut aimer parce qu'on n'aime pas les films de zombies et qu'on s'en moque un peu du côté série Z. Et puis, si on est un petit peu dérangé par l'horreur parce qu'on est un peu hypersensible, c'est aussi un film qu'on peut regarder parce qu'il ne fait pas peur du tout. En tout cas, ça peut s'adresser à beaucoup de public.
はい、カット。
En effet, c'était un film d'étudiant qui a été réalisé avec l'équivalent en yens de 25 000 dollars. Ça a eu quand même un gros succès parce que ça devait passer qu'une semaine dans un seul cinéma. Genre, papa, maman, vous pouvez aller voir mon film, quoi. Et en fait, après, ça a été distribué en masse, quoi. Et ils ont récolté 26 millions de dollars au box-office japonais en 2018. Donc c'est pas mal. Et puis ils ont eu beaucoup de récompenses, notamment les prix du public ou les meilleurs films, un peu partout en fait, que ce soit au Japon, mais aussi en Italie, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, en Corée du Sud, etc. quoi. C'est quand même très honorable.
Ça met peut-être un petit peu la pression sur le deuxième film.
C'est clair.
Ah Laurent, il devient Akira. Muriel, elle devient Natsumi. Et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Par contre, rigole pas. Non, non, je te jure, je te marre pas. C'est moi qui suis à l'écran, mec. Que je suis...
C'est mon film! Tu fermes ta gueule! Tu me fais chier depuis le début des répétitions! Alors maintenant tu fermes ta grande gueule de con! On continue de tourner, on n'arrête pas la caméra! Ah,
le remake, donc qui n'est pas américain cette fois-ci, mais qui est bien français. On a du sur-méta-méta, puisque ici, c'est une des anciennes, enfin, une des actrices de l'original qui vient proposer en France à un réalisateur qui prend pas trop cher et qui travaille vite de faire le remake de l'original lui-même, hein, qui a eu un grand succès au Japon. Et donc, elle lui lance le même défi, réadapter ça pour une plateforme de streaming français. Donc voilà, c'est un remake du film avec le même challenge, faire un plan séquence, et on retrouve la même structure en trois avec ce fameux plan séquence, la partie production, création et les coulisses pendant le tournage. Alors, ce qui est un peu différent, c'est que on a plus cet aspect d'ego des acteurs, des revendications peut-être de l'acteur principal par exemple, qui juge la qualité, qui juge un peu la façon dont les choses sont faites, etc. Donc, je trouve qu'il a une voix un peu plus forte que peut-être dans l'original. On a d'autres, donc le fait que ce soit plus transmis à la télé, mais sur une plateforme qui correspond un peu aux conditions actuelles. On a cet aspect supplémentaire de l'improvisation et du plan séquence qui est dans la musique et les effets spéciaux.
Parce que du coup, il y a un personnage en plus.
Le
musicien.
Sound designer.
Que dans le premier, c'est vraiment un truc plaqué qui sort un peu nulle part. Il n'y a pas de jeu, en fait, sur le fait que le son soit aussi improvisé éventuellement pendant le...
Le style musical ne sort jamais du style de la série Z qui sont en train de tourner. Donc ça fait peut-être partie du concept méta. Je reviendrai moi sur la qualité du film dans le film et du film lui-même par rapport au remake. Je ne sais pas si vous m'avez suivi.
Je crois. On attend la suite.
Dans l'original, on ne sort jamais vraiment de la caméra portée, du truc filmé un peu au caméscope de luxe. C'est juste un peu plus posé, effectivement, parce qu'on n'est plus dans le plan séquence. Et dans le remake, il y a un peu deux films vraiment de qualité diamétralement opposée.
C'est vrai. Plus léché au niveau esthétique, un peu plus de jeu de couleurs. Il y a moins cet effet caméra embarquée. Enfin...
Oui, c'est-à-dire quand on n'est plus dans le plan séquence, on est vraiment dans un film à la française. En plus, cette fois, je ne sais pas si vous l'avez noté, on est en cinémascope, quoi, donc vraiment l'écran large, on n'a plus le côté DTV. Quoi,
voilà, DVD, c'est pour ça que j'ai ressenti.
Ouais.
C'est génial, putain. Oui, les jeux. C'est un chef-d'œuvre, putain. Fais tes adieux, sac à merde. Saloperie de zombie.
Oui!
Nique-toi! Nique-toi, tu pues la merde, hein! Pourriture zombie! Je vais tous vous ouvrir le cul!
Ils ont pris toutes les bonnes idées qu'il y avait à prendre et ils se sont fait plaisir en rajoutant deux, trois trouvailles de leur fait. Il y a un moment, il y a un des acteurs qui va sortir, on le voit qui hésite à sortir. Il fait bon, ah non, j'irai fumer ma cigarette plus tard. On comprend qu'en fait, on lui fait signe de derrière que c'est pas le moment. Ah oui, il y a ce truc aussi, il y avait la caméra qui tombe, mais dans le remake, il y a aussi ce moment où la caméra s'arrête et les gens sortent du champ, et puis ça dure 3 heures. Et en fait, c'est le mec qui était accroché le t-shirt. Donc, voilà, il a pas pu les suivre.
Ils refont la scène. Mais...
oui, c'est ça, ils reviennent devant.
Dans les trucs différents, il y a le Krav Maga aussi.
Oui, alors que c'est self-défense dans le premier, ouais.
Après, ça change pas grand-chose, en vrai.
Non, mais ça passe bien. Moi, ça fait partie des adaptations que je trouve vraiment bien, en fait. Parce que c'est à la fois explicite pour beaucoup de gens, et en même temps, ça justifie qu'on demande une démonstration, parce que c'est un peu spécial, quoi.
Oui, juste pour expliquer, c'est le personnage de l'assistante qui fait, dans la vraie vie du Krav Maga et dans le film japonais du self-défense, il se passe un imprévu, et du coup, ils doivent improviser devant la caméra, et ils savent pas trop quoi dire, et c'est un peu genre, comme ça... Comme ça, elle dit...
Quels sont tes hobbies?
Mais c'est quoi cette question?
Tes hobbies, même.
Tes hobbies. Bah non, mais en fait, moi, je fais du Krav Maga. Ah oui, vous voulez que je vous montre? Et en fait, ça dure, puis c'est malaisant. Combler, quoi.
C'est vrai que la première fois qu'on la voit, cette scène, c'est très drôle. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font?
Oui, là, c'est pourquoi?
Et à ce moment-là, en plus, on pense que c'est une sorte de préparation paiement, c'est-à-dire on doute que ça va être utile plus tard. En fait, non, c'est pour combler pendant que les autres essaient de réveiller l'acteur qui est bourré.
Après, ça justifie le fait que elle se bat plutôt bien quand même.
Oui, à la fin, elle l'utilise bien, où elle défonce toute l'équipe.
Ah oui, les coups de pied.
Elle est un petit peu nerveuse, la dame. C'est ça.
Il y a des beaux coups de pied sautés quand même.
Et j'ai pensé à un truc mortel.
Ah ouais?
Ouais. On va rajouter des sons de gratin, tu vois.
Gratin.
Ouais, des trucs qui grincent pour donner un côté mystérieux, flippant à tout ça, tu vois ou pas?
Ah, des grincements.
Ouais, des grincements, ouais.
Parce que t'as dit gratin.
Oui, mais des trucs qui grattent, qui grincent, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas?
Tu vois ce que c'est un gratin?
Ça va être flippant. Ça va être génial.
Génial.
La grosse différence entre la version française et la version japonaise, enfin c'est pas une différence, c'est un ajout, c'est de rajouter cette couche de méta, de dire qu'en fait on fait un remake de la version japonaise, donc en fait le film japonais existe dans ce film là. À un moment le réalisateur, je sais plus son nom d'ailleurs, son personnage, enfin Romain Duris quoi,
Romain Duris, disons-le,
qui reçoit le petit dossier de production, et en fait dedans on aperçoit des photos du tournage. À un moment il est en train de manger chez lui, il regarde l'original. En fait dans ce film là, le film japonais existe, et eux ils ont fait un remake, alors ce qui du coup est drôle et en plus incohérent, parce que c'est pas possible qu'il leur arrive exactement les mêmes choses, mais c'est ce qui donne peut-être du charme à ce film là. Et puis il y a aussi un peu une adaptation aussi peut-être plus culturelle. En plus il le dit, donc enfin il dit il y a des trucs qui sont très japonais, et en France ça passe pas forcément. Et c'est vrai qu'au Japon on n'a pas la même culture, enfin les relations de hiérarchie, les relations humaines sont vraiment pas les mêmes, donc ils ont un petit peu changé ça quoi.
C'est là aussi où on retrouve la patte de Michel Hazanavicius. Justement on parle de différences culturelles, enfin ce qu'il aborde aussi dans d'autres films, clairement dans OSS 117, notamment si on revient sur le jeune acteur un petit peu en vogue qui donne son avis et donne un peu trop son avis parce qu'il prend un peu toute la place parfois. Enfin voilà, il trouve ça carrément débile de faire un film de zombies, mais il le fait quand même, et du coup, pendant tout le tournage, il n'arrête pas de dire que c'est débile. Et en même temps, il a des revendications politiques et il sait pas trop où les caser, parce qu'en fait, on est dans de la série Z, voilà. Il y a toute cette scène-là où ils sont en train de courir, et puis en fait, il peut pas s'empêcher de dire un truc, je sais plus ce qu'il dit. Puis ouais, capitalisme ! Il est pas content parce qu'on partage pas son point de vue sur le fait que... voilà, le film de zombies soit une revendication en soi, même si on n'a pas un propos dans les dialogues, etc. quoi.
Il y a une autre différence, c'est dans l'original, la fille qui se fait attaquer au début, c'est un peu une idole.
C'est ça, au Japon, les idoles, culture, c'est un peu un mélange entre des voilà, chanteuses, des mannequins.
Alors que dans l'autre, c'est dans le remake, c'est une influenceuse, un peu instagrammeuse, youtubeuse, je sais plus, mais donc voilà, il y a des petites adaptations comme ça pour le contexte.
D'ailleurs, dans l'original, c'est réellement une fille qui faisait de la J-pop.
Ah oui.
Comment font donc les gens ici pour ne pas salir leurs souliers?
La plupart n'en ont pas.
Elle est bonne celle-là, pas de souliers. J'avoue.
Vous savez Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures.
Une dictature, comme vous y allez. Et bien sympathique Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Et il y a aussi des trucs méta pendant le film où il y a des moments où le réalisateur joué par Romain Duris, il est en train de réfléchir, il y a une musique un petit peu sombre derrière, ouais. Et en fait on comprend que c'est derrière, on dirait que c'est... du coup c'est peut-être diégétique et pas extra-diégétique.
C'est ça, tu peux arrêter s'il te plaît. Ok.
Bon, ça c'est un vieux gag piqué dans tous les Mel Brooks par
c'est
exemple.
C'est vrai que ça fait très Mel Brooks.
Ouais. Il y avait ça dans Woman at War aussi, qui est un film alors, qui n'a rien à voir mais qui est très chouette, où il y a des musiciens qui apparaissent en permanence dans les plans et qui font vraiment une musique qui va avec l'humeur de l'actrice quoi. Alors dans ce film là c'est pas du tout un gag en fait, c'est un peu une vision poétique des choses. J'ai pas pu m'empêcher de rire parce que je pensais au vieux gag de Mel Brooks comme ce cow-boy qui s'en va vers le soleil couchant, puis qui croise un orchestre en plein désert. Je lui dis, ça va les gars, jouez pas trop fort s'il vous plaît.
C'est vrai qu'Azanavicius, c'est pas la première fois qu'il fait ça. J'ai en mémoire un gag de OC 117 où on a une chambre d'hôtel, il y a un téléphone au premier plan qui sonne, et en fait il y a OSS qui vient décrocher un téléphone qui est derrière, qu'on voit pas, qui est caché.
Il faut savoir aussi que Azanavicius écrivait des sketchs pour les nuls, et ça c'est très atypique de ce genre de sketch complètement absurde et décalé, où justement on casse le quatrième mur en permanence, mais quand même très souvent.
Ça a des effets qu'on considère comme acquis, auxquels on est habitué, qui viennent un peu dévoiler, casser.
J'essaie de regarder quelques interviews de Azanavicius et des acteurs, et il n'en parle pas trop, mais je pense que le fait de faire ce film-là, ça lui, il l'a aussi fait parce que ça lui rappelle toute cette période Canal, de films un peu faits avec des ficelles, enfin de films ou d'émissions en direct, hein, parce que ça avait beau être Canal, il devait être aussi s'adapter tous les jours à corriger plein de choses.
Je ne sais pas si ça lui rappelle ou si quelqu'un a considéré qu'il avait le bagage pour faire ça.
Mais je crois que c'est lui qui a insisté pour le faire, le film. Quand on regarde le début du film, il y a beaucoup de production. Et c'est produit par plein de petites boîtes, plutôt qu'une grosse boîte. Je crois qu'il y en a facilement au moins 8. Alors, lesquelles sont vraies, parce que je pense qu'il y en a aussi qui s'en fout.
Il y a Z aussi.
Il y a Z,
ouais, la plateforme dans le film.
C'est ça.
Et du coup, sur le côté humain des personnages dont on parlait pour le premier, on retrouve quand même tout ça, notamment avec un ajout qui m'a fait beaucoup rire sur justement la langue française. C'est le personnage de Bérénice Bejo, donc qui est l'épouse de Romain Duris et qui va du coup remplacer l'actrice qui est en accident. On voit dans la deuxième partie du film que quand elle parle à sa fille et tout ça, elle la reprend sur certaines phrases, notamment sur des formulations comme c'est qui qui veut ça, c'est qui qui a fait ça. Et à chaque fois, elle dit, on dit pas c'est Kiki. Quand elle se retrouve sur le tournage, en fait, il y a quelqu'un qui dit c'est Kiki en pleine tension. Elle est en train de dire on dit pas c'est Kiki, et ça m'a fait mourir de rire. Et vu que j'ai pas précisé, mais on devait être 3 dans la salle, et du coup je l'ai vécu aussi comme un comme un film de série Z que je vais voir.
On en parlait déjà tout à l'heure, hein, sur le côté humain, on va pas parler sur l'original, mais il y a toute une scène quand on découvre la fille qui a l'air d'être assistante sur un tournage, commence à insulter une gamine parce que elle lui dit tu sais, ouais, t'as pas besoin de l'arme artificielle, tu penses est-ce que tes grands-parents sont encore vivants par exemple, voilà. Et du coup elle se fait virer parce qu'elle est un peu trop franche, et c'est tout un thème du film d'être honnête en fait face à la caméra, et je trouve ça assez drôle, et c'est en fait finalement tout le propos du film.
Ouais, il y a beaucoup de choses en plus, moi je trouve très bien, parce que il tient compte du fait que beaucoup de gens qui vont voir le film auront vu l'original. Donc il fallait rajouter des choses, il le fait, il en tient compte. Moi, ça, pour moi, c'est un petit peu l'idée de génie du truc quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment comme ça où la production japonaise, qui supervise un peu, dit « Non mais là, vous faites trop de changements, vous revenez au script original. » Et d'un coup, les acteurs qui ont tout répété, ils doivent reprendre des prénoms japonais.
Ah, en fait.
Ils se paument complètement, ils les inversent. Enfin voilà, ça rajoute des trucs
Shinatsu.
En plus.
Shinatsu
Voilà, et alors on a beau connaître le premier par cœur, bon c'est pas mon cas, mais je pense qu'on a beau connaître le premier par cœur, on rerit quoi devant plein de choses. Il y a de même le premier plan séquence, même si on connaît l'original, il y a des choses en plus. Il y a un personnage dans le plan qui est assis au fond. On saura bientôt pourquoi, mais on se dit, mais alors c'est lequel lui par rapport à l'original Bon, voilà, c'est celui qui a un peu la diarrhée, qui est déjà là, indisposé, et qui a rien à faire dans le plan.
Et ça, moi, c'est vraiment le truc qui m'a le fait plus rire. Pas parce que c'est une blague de caca, mais c'est vraiment ce truc.
Ah, si, un peu quand même.
En fait, il y a vraiment ce truc où, pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce que je suis le seul à voir qu'il y a un mec derrière qui est juste assis, qui a l'air d'être dans le mal? En fait, j'ai vraiment vécu le premier visionnage comme mais ça, c'est normal ou pas? Enfin, c'était des vraies questions.
Je croyais que tu allais dire que tu l'avais vraiment vécu.
Ah non.
non, mais en fait, j'étais là, genre, mais c'est pas normal qu'il y ait le mec. Et pourquoi le perchiste, il perche rien? Et en fait, c'est trop drôle. Ouais.
Moi, je crois que c'est le vomi quand même. Le mec qui est vraiment malade, et nous, on est là, ah, c'est bien fait.
Oui, ou juste le mec qui passe et qui revient après, qui dit je vais prendre l'air.
Ouais, ça, c'était beau aussi.
Et qui revient après, on sait pas trop pourquoi il est là.
Il y a un côté triste quand même, hein, celui qui est alcoolique et tout, avec sa petite. Sa fille qui est pas fière de lui.
C'est aussi où dans le remake, on insiste plus là-dessus.
Je trouve, ouais, moi j'ai trouvé ça.
Il me semble qu'il y a pas cette discussion. À un moment, ils ont une discussion.
C'est plus clown dans le premier.
Alors, moi justement, j'ai beaucoup pensé à ça. Je ne sais pas quoi mettre sur le dos de la différence culturelle, parce que c'est vrai qu'au Japon, on est peut-être un peu plus introverti. Moi, ce que j'ai ressenti dans le film français, c'est que tout est plus explicite, tout. Et je n'ai pas trouvé ça trop, parce que finalement, par exemple, on peut dire qu'il y a des retrouvailles entre le père et la fille, le père réalisateur et sa fille à la fin. Mais finalement, ça m'a peut-être plus touché, dans le remake, peut-être parce qu'il y avait des choses plus explicites, c'est-à-dire que leur conflit est plus clair.
Et la fille est plus à l'image aussi, la fille de réalisateur, donc
plus active
dans le film, dans le remake.
Et alors, je pense que la tristesse du personnage alcoolique, du coup, qui a du mal avec sa fille, oui, lui, il a un arc en lui-même triste, mais il sert, en fait, il fait réagir Romain Duris, qui revoit des photos de sa fille, et c'est ça qui dit... Voilà, qu'il ne faut pas qu'il reste fâché avec elle et qu'il faut qu'il aille un peu dans son sens, qu'il fasse des pas vers elle. Quoi.
Après, moi, j'avoue que même si ça m'a un peu touché, j'ai quand même eu un peu du mal à comprendre. Mais pourquoi ils ne s'entendent pas, en fait? J'arrivais pas à comprendre. Est-ce que c'est juste crise d'adolescence? Enfin, elle n'est pas adolescente, elle est un peu plus grande. Et j'ai quand même eu du mal à acheter ce truc-là, de se dire bah, ils ont l'air un peu en froid. Ils n'ont pas l'air de beaucoup communiquer, mais j'arrive pas trop à comprendre.
Bah, moi, ce que je ressens, moi, c'est que je vois effectivement une fille qui cherche de la sincérité, de l'authenticité dans ce qu'elle fait, et lui qui arrête pas de faire des concessions.
Oui, c'est vrai.
Il fait des tournages. Alors, il se vend comme quelqu'un de rapide, pas cher et dans la moyenne. C'est le détournement d'un triangle que vous avez peut-être déjà vu, le triangle de la création, où on dit on peut faire rapide, pas cher et de qualité. Mais il faut en choisir deux sur les trois. On ne peut pas faire les trois. Et lui, il a détourné le truc en disant rapide, pas cher et dans la moyenne. C'est une façon de dire que le choix est déjà un petit peu fait, quoi.
Il n'y a pas une vraie tension. C'est juste une ado et son père qui échangent plus tant que ça, qui sont en plus dans le même domaine, et l'un veut qu'il soit fier de l'autre et l'autre également, mais ils n'ont pas la même vision.
Si je me souviens bien, il y a beaucoup de photos de lui avec elle petite, et puis on voit qu'il y a de moins en moins de photos, voire qu'il n'y en a plus. Donc c'est un truc qui matérialise aussi la distance qu'ils ont. Enfin voilà, ils font deux chemins, quoi.
Après, je pense aussi qu'il y a cette différence entre lui qui pratique et en fait qui subit un petit peu son métier, et elle qui est dans encore les yeux écarquillés de dire ah bah le cinéma c'est Tarantino, elle a des t-shirts de Tarantino, et lui qui essaie peut-être gentiment de lui dire bah ça peut être Tarantino, mais bon concrètement et aussi des fois faut faire des concessions. Donc en fait c'est entre elle qui idéalise le cinéma et lui qui a tout l'inverse, qui en fait a un peu perdu sa passion, qui en fait c'est un travailleur, c'est un yes man, quoi, comme on dit à Hollywood, il fait les trucs.
Il prend quand même ce film un peu pour la toucher.
Ah bah c'est
parce
oui,
qu'il sait qu'il y aura un acteur qu'elle aime bien dedans, il sait que c'est peut-être un genre qu'elle aime bien. Lui, il n'a pas un penchant particulier, de ce que j'ai compris, pour les films de zombies. Donc il y a quand même ce truc de prouver ou d'être moderne aussi, parce qu'il prend un challenge, ça faisait, c'était peut-être une chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps.
Oui, et il y a quelque chose de très joli justement dans la scène finale qui m'a beaucoup touchée. On reprend une idée de l'original, mais en fait ils font une espèce de pyramide parce qu'il y a un problème avec la grue qui se casse et du coup on en a besoin pour la scène finale, pour le plan final. Et en fait ils se retrouvent, toute l'équipe de tournage, à faire une espèce de pyramide pour pouvoir tenir la caméra en hauteur. Et c'est la fille qui est un peu à l'initiative de ça, et c'est un peu aussi l'apothéose de la construction avec son père. Ils ont fait enfin quelque chose tous les deux, quoi.
Mais ça, c'est dans l'original.
C'est dans l'original, mais du coup, je trouve que c'est très bien retranscrit aussi dans le 2.
Elle est plus grande, la pyramide. C'est le truc toujours plus grand. Mais en plus, c'est aussi c'est toujours très métaphorique. C'est vraiment une accumulation du travail de plein d'humains. Il suffit d'un seul maillon qui casse et tout peut s'écrouler. Donc, c'est assez beau sur la production de film.
Je peux me tromper, mais je crois qu'on voit plus le producteur aussi, qui est son copain, enfin le mec qui lui amène le plan.
Je connais pas l'acteur, mais j'ai l'impression que c'est un doubleur.
J'ai déjà vu.
Parce que je connais sa voix.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il est plus là, et avec le musicien aussi, je trouve que ça fait deux témoins. Ils sont un peu comme nous, des spectateurs de tout ce qui est en train de se passer, qui le commentent à leur manière.
Oui, c'est ça, je comprends plus rien, là.
Voilà. Ils sont un peu impliqués en même temps. Donc, et bon, c'est bien pour nous, parce que quand on est perdu, on sait qu'on n'est pas tout seul. Il y a des personnages du film qui le sont aussi.
C'est à la limite de l'échec à chaque fois, puisqu'il y a cette question de est-ce qu'on lance les pubs, est-ce qu'on lance est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on coupe. Et c'est à chaque fois dans l'équipe, les uns et les autres qui disent non, on continue, on va trouver une solution. Donc à tout moment, ça aurait pu juste s'arrêter là et pas continuer. Donc il y a cette idée que tous ensemble, chacun va trouver une solution, ramener des pancartes, on change de truc, en fait c'est machin qui va jouer le zombie. Avec l'autre là qui arrive, à un moment, il y a un des personnages qui se cache dans une cabane et on voit une jambe toute mitée. Et on se dit, c'est quoi ce zombie bizarre? Et en fait, on comprend que c'était quelqu'un qui venait juste annoncer quelque chose et qui a maquillé sa jambe pour pouvoir passer à l'écran, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. Alors, moi, je suis pas une spécialiste des films de zombies, mais sur le côté mal cadré, tous les props, tous les accessoires, les mains, le mauvais maquillage, puisque l'autre on dirait à moitié un schtroumpf,
les têtes coupées en plastique,
balance la tête,
oui voilà, des trucs qui n'ont pas du tout de logique, le sang à foison là quand elle achève le réalisateur à la fin. Enfin, moi j'ai bien aimé aussi voilà ce côté un peu on découvre les coulisses humaines, matérielles, techniques. Déjà ça se voit dans un plan séquence que c'est faux. C'est encore plus drôle quand on les voit porter le cadavre sans tête et le jeter pour que ça arrive au bon moment.
Quelqu'un a vu la tête à Jojo.
En vrai, tu te dis, c'est un timing de fou, quoi, parce qu'il y a une équipe qui doit suivre, être là au bon moment. Je pense qu'on aurait pu encore plus creuser ce côté préparation du minutage, en fait. Parce que là, on arrive, quelque part, tout est bien rodé, à part les imprévus.
On voit quelques répètes, un peu, ils sont avec des chronos, ils tournent.
Ah ouais, moi, j'aurais aimé encore plus.
Ils courent aussi pour arriver à la scène suivante.
C'est vrai. Bah, toi, il faudrait un film où tu suis
un les accessoristes.
Mais je sais pas si vous avez eu cette impression, mais il faudrait que je revoie les films. J'ai l'impression que le minutage du court-métrage plan-séquence du début et de la fin dans le remake est plus fidèle, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... qu'il est un petit peu resserré dans l'original et qu'on a un plan séquence déjà sensiblement plus court, il me semble, dans l'original. Et qu'en plus, le plan séquence avec ses ajouts, avec ses à côté, est remonté et un petit peu condensé.
Oui, il y a des ellipses. Il y a des ellipses dans l'original.
C'est le mot que je cherchais, merci.
dans l'original, des fois, ouais, il y a peut-être une scène qui est un peu passée à la trappe. Là, c'est, faudrait vérifier.
Tu revis tout, là.
J'ai l'impression qu'on est en temps réel plus.
Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ces films? Je pense qu'on aurait plein de choses à dire et que quand on va couper les micros, on va dire « Ah mais oui, on a oublié ça !»
Mais ça, c'est aussi les aléas de l'enregistrement.
Alors si, moi j'ai un petit truc à dire, et on en parlait juste avant sur le minutage, tout ça, je trouve qu'on voit un petit peu plus dans le remake cette espèce de petite armée d'assistants qui court après, qui fait du sang et tout. Alors je sais pas si c'est voulu, mais je trouve que c'est que des filles qui se ressemblent, c'est que des brunes avec les cheveux attachés. Et après, elles sont toutes habillées pareil, c'est normal, ils ont le t-shirt de la production.
Bon, c'est pas le cas là, mais je sais qu'il arrive que les gens qui sont vraiment, qui doivent s'occuper d'un effet spécial, sont parfois habillés pour pouvoir intégrer de la figuration dans un film.
D'accord.
Donc ils ont parfois des habits qui sont pas très pratiques en fait, mais qui leur permet de faire leur travail discrètement, et puis bah, si jamais ils doivent apparaître dans le plan, il y a une cohérence, quoi. Donc parfois, on a, je sais pas, quelqu'un qui est là pour jeter du sang sur quelqu'un, mais qui va avoir un costume d'époque, parce que c'est un film d'époque.
Et s'il doit jeter son tuyau, et puis...
Ouais, d'accord. Parce qu'on a tous vu ces anecdotes de je sais pas, au milieu d'un péplum, d'un mec avec une casquette et une Rolex qui passe par là.
Le jean dans Gladiator, là, notamment.
Le gobelet Starbucks.
Et, bon, c'est très rapidement fait, mais c'est vrai que les personnages qui sont un peu dans la team sont un peu plus creusés. Par exemple, l'assistante caméra, dans le premier, elle est un peu derrière à insister, mais on ne sait pas trop ce qu'elle veut. Alors que dans le remake, on l'entend dire « mais je peux le faire, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça ». Enfin, elle a une voix un peu plus portée, et ce qui permet davantage de comprendre le moment où elle récupère la caméra qui est tombée et où elle fait ses effets. Et je trouve que c'est un peu plus expédié dans l'original où... Pour moi, c'était un personnage lambda et j'avais pas d'attente particulière.
Je suis d'autant plus d'accord que vraiment, ça fait partie des exemples où je ne savais plus si la différence culturelle et la réserve peut-être naturelle faisaient que... le personnage de l'acteur, par exemple, qui a deux revendications, moi, je le trouve hyper français, pour le coup. Bah, un, il râle. Deux, il intellectualise le truc. Il veut que les zombies soient représentatifs de quelque chose.
Puis avec Lars, on fait pas pareil.
Voilà, exactement.
La comparaison.
Et je pense que c'est vraiment quelque chose... qu'un acteur japonais ne pourrait pas se permettre.
C'est surtout au remake où moi j'ai eu une réflexion, c'est l'acteur qui était censé jouer le réalisateur et l'actrice qui est censée jouer la maquilleuse qui du coup a le bébé. Ils disent qu'ils ont un accident, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'ils se tournent autour pendant toute la pré-production et qu'en fait ils se barrent tous les deux ensemble.
Oui, on insiste beaucoup là-dessus.
En fait, moi je vais te dire ce que j'ai compris. Le fait qu'ils aient un accident en ayant voyagé dans la même voiture est une anomalie déjà.
Oui.
Et donc ça prouve qu'ils avaient une relation. Oui. Voilà. Donc pour moi, ce qu'on nous vend, c'est qu'ils se rapprochent, au point qu'ils font la connerie de voyager dans la même bagnole, alors que l'intérêt d'un tournage, c'est que les stars, avec toutes les guillemets qu'il faut, ont chacun leur véhicule, comme ça, s'il y en a qu'un accident, il y a quand même le deuxième, quoi. C'est un peu comme le président, le premier ministre, s'ils vont au même endroit, ils vont pas dans le même endroit.
Cette impression de déjà-vu.
On se connaît ?
Ouais, on se connaît.
Alors, on parlait de la pression des jeunes de l'école qui ont fait leur premier film, on se dit, il y a peut-être la pression pour le deuxième, mais là... on leur dit, bon, bah, votre premier film, il y a un gars qui a quand même des Oscars, des Césars et compagnie, une Palme d'Or qui va faire un remake. Je trouve que c'est un bel hommage, l'air de rien, de l'industrie elle-même à ce cinéma un petit peu fait main, quoi, un petit peu artisanal. Et on parlait tout à l'heure un petit peu déjà de la différence de style. Donc moi, je trouve là vraiment qu'on a d'un côté un film caméra à l'épaule qui est le plan séquence. Et puis une vraie comédie familiale à la française avec vraiment une image léchée. Enfin, on sent que c'est plus cadré du tout par les mêmes gens, vraiment, quoi.
Et c'est pas le même recul non plus, parce que dans le film original, en fait, ils commentent une industrie qu'ils découvrent, enfin, qu'ils sont en train de découvrir. C'est déjà un message en direct sur ce qu'ils font, alors que là, Zanavicius, je trouve, a plus un message sur ce que lui a fait avant, parce que j'imagine qu'il doit quand même avoir des galères, mais lui, ce type de production-là, ça doit faire quand même pas mal d'années qu'il n'en a pas vu. C'est aussi plus ça, un peu un retour en arrière, une référence au cinéma et à ce que c'est que de commencer, quoi.
Mais avec des moyens.
Mais avec des moyens, c'est ça. Mais du coup, c'est un petit peu difficile de comparer,
quoi. Ouais.
Petite anecdote sur le titre du film, enfin du remake, qui du coup s'appelle Coupé. Et pendant longtemps, le titre du film, c'était Z. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le titre n'a pas été changé à cause des présidentielles et d'un certain candidat, mais c'est à cause de la guerre en Ukraine. Parce que visiblement, la lettre Z, en fait, c'est une lettre qui est souvent utilisée par l'armée russe. Ils mettent ça sur les murs, sur les tanks quand ils font des invasions. Ouais, je ne savais pas. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi la lettre Z. Hein, sur IMDb, ce n'est pas précisé pourquoi. Mais en fait, oui, ils se sont rendus compte que c'était peut-être malvenu en ce moment de sortir un film qui s'appelait comme ça, alors que à la base, c'était juste pour parler des films de série Z.
Par ailleurs, Z, c'est déjà le nom d'un grand film de Costa Gavras, donc c'est peut-être aussi que c'était...
C'est peut-être une fausse excuse.
Ouais, je sais pas.
Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
J'ai envie de la revoir, en fait, moi, ce film. J'ai envie de la revoir.
Tu veux pas attendre le prochain remake?
Le prochain américain, cette fois. Ouais. Bah, on est prêt. Moi, je mettrais bien un petit billet pour que ça se fasse aux États-Unis.
Moi, je vous dis tout de suite, je rêve d'un remake espagnol ou américain ou qu'importe, mais qui intègre le fait que les Français sont passés avec les Japonais et qui se disent, bon, les Français ont rajouté ça, qu'est-ce qu'on fait en plus, etc.
Et on fait le monde entier.
Voilà, ça deviendrait une espèce de feuilleton avec un renouvellement à chaque fois du truc.
En fait, ça continuerait, on aurait à chaque fois une couche supplémentaire.
Ça serait plus méta que méta.
Et on pourrait boucler tout ça avec les Japonais qui refont un remake pour clôturer, pour finir la boucle.
Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture.
On va devoir malheureusement trancher. Ça va couper. Alors, qui commence? Qui se sent...
Moi, j'ai pas d'avis, je redoutais ce moment depuis le début. Voilà, j'ai beaucoup hésité à venir à cause de ça. Moi, j'ai vraiment aimé la version française, mais qui se justifie parce qu'on a vu le précédent, en fait. Donc, voilà, je vais faire mon bon normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, voilà, le premier est hyper frais, hyper neuf, et je trouve que l'adaptation a été quand même hyper intelligente, et elle a pris en compte le fait qu'on n'est pas des spectateurs qui sortent de nulle part, et qu'on a peut-être, pour certains, vu le film. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça reste très marrant, quoi.
Très bien. Géraldine.
J'ai exactement le même avis que Sébastien. Je vais pas faire un remake de ce que tu viens de dire.
On a failli faire un chiffre.
Qu'est-ce que tu vas ajouter?
Qu'est-ce que je vais ajouter? Non mais j'ai vraiment adoré les deux en fait. J'ai adoré le côté vraiment fabriqué en fait, le côté fabriqué du film et en plus qu'on rajoute des couches au fur et à mesure. Et j'ai trouvé aussi que le remake de Michel Zanavicius était très bien fait et pour le coup je l'ai pas trouvé inutile puisque il y a une couche en plus.
Ça.
Ouais, bah, je tire mon chapeau pour l'original parce que l'idée est quand même très très cool. Après, je pense que j'étais influencée par le fait d'avoir vu le remake avant l'original et je pense que l'esthétique, le jeu sur la musique, les effets m'ont plus mis dedans en fait. Donc moi j'ai quand même un petit penchant pour le remake. Normalement le cinéma français c'est pas toujours ma tasse de thé. Moi j'ai aimé voilà cette dimension supplémentaire rien que sur la musique pour moi. C'est ce qui a fait la différence dans ma décision.
Eh bien moi, je vous avoue qu'avant de commencer j'étais un peu plus tranché. Je préfère l'original. Ça n'a pas changé, mais c'est vrai que le fait d'en avoir parlé avec vous, avec du recul, j'apprécie quand même plus, tout simplement parce que je pense que je suis passé à côté de certains messages. En fait, je trouve que c'est plus simple pour Zanavicius de faire un film comme ça que le réalisateur japonais à la base. Moi, je trouve ça beaucoup plus beau, ce truc d'équipe d'étudiants qui font un film aussi original, qui sort de nulle part, que même si le remake est très bien, finalement, le scénario original, c'est le même. Et c'est des ajouts qu'il a fait. Puis il a tout ce bagage aussi, à Zanavicius, d'avoir fait, je sais pas maintenant, il en a combien? Il a quasiment plus de 10 films, je pense. Par contre, on sent que c'est un vrai projet de cœur pour lui. Mais voilà, je trouve que c'est moins risqué, entre guillemets, que l'original. Par contre, comme beaucoup des films qu'on fait dans Déjà Vu, ça a le mérite de faire découvrir l'original à des gens peut-être qui ne l'ont pas vu. Donc ça, c'est très cool. Mais je préfère l'original.
Du coup, on n'a pas tranché, donc on a une égalité.
On a une égalité parce que on a un point de chaque côté.
Bon, il nous faut le vote de Vincent.
Il faut
en fait,
le vote hein. de Vincent. On va
appelle-nous, Vincent.
Il ne faut pas hésiter non plus pour les auditeurs à nous donner votre avis.
Parce que d'habitude, c'est un petit peu tout ou rien dans l'équipe. Donc, c'était très plaisant. Merci d'être venu, Sébastien. C'était un plaisir. Et puis, puis merci à Géraldine et Mélissa d'être là.
Quand même. Merci, voilà. Maxime,
merci
pour la technique également.
Oui, en plus, ça a fonctionné du premier coup. Alors, ça, c'est forcément.
On se serait cru sur un tournage de série Z.
Mais pourquoi ça marche pas? En tout cas, on vous dit à bientôt. On sait pas encore ça sera quoi le prochain film, hein, donc on va pas faire d'annonce.
Bah, si.
Oui, mais non, mais on sait parce que. Alors voilà, on va vous parler des coulisses. Le prochain épisode, c'est un épisode qu'on a enregistré il y a longtemps et qu'on gardait spécialement parce que pendant les vacances scolaires on peut pas forcément enregistrer l'épisode, donc voilà, on a gardé sous le coude.
Qu'est-ce qui est énervant et qu'on a envie d'écraser, tu vois, la mouche.
C'est ça. Donc, voilà, le prochain épisode ça sera sur la mouche. C'est un épisode qu'on a enregistré il y a plus d'un an.
Plus d'un an.
Ouais.
Donc... Vous êtes sûr que vous avez encore le même avis qu'il y a un an?
Moi je suis sûr.
Voilà. Oui, c'est sûr.
Merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt. Ça va couper, chérie.
Titre original, Kamera Otomeruna.
Voilà, fallait bien le caser une deuxième fois.
J'ai appris le japonais pendant 2 semaines sur Duolingo, c'est tout ce qui me reste. Je sais pas exactement si. Je pense pas que ça veut vraiment dire ne coupez pas, mais bref.
Ah, en plus, on pousse les recherches très très loin dans cette émission, je trouve.
Alors, en tout cas, il y a caméra, donc ça veut dire.